Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Inanna, de Fenua Inata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanu
et bienvenue dans cette 46e émission,
édition 2023. La dernière fois, nous avions traversé l'année 1845, marquée par le procès et l'exécution du grand chef Pakoko. Suite à la disparition en mer de Mgr Rouchouz, premier évêque des Marquises, nous y avions aussi appris la nomination du père François de Paul Baudichon pour le remplacer. Arrivé en août à Valparaiso, au Chili, il est consacré en décembre, après quoi il reprend la direction des Marquises où il arrive en janvier 1846. Le 23 janvier, arrivé à Taiohae du navire Cresquer, capitaine Auguste Marceau, avec à bord Mgr Baudichon, les pères Ildefonse d'Ordillon, cousin de l'évêque, et Dominique Fournon, ainsi que les frères Jules Michaud, Alain d'Arc et Alexis Guéric. Le 7 février, c'est le retour triomphal de Mgr Baudichon à Tahuata. Il rapporte du Chili le premier catéchisme en langue marquisienne,
dont j'ai eu la chance et l'émotion de pouvoir en consulter un exemplaire parmi ceux conservés aux archives de l'évêché de Taiohae.
Touchés par ce manuel, malgré leur incapacité à le déchiffrer, les Enata se convertissent en masse. Ils rejettent les tapu, désacralisent les me'ai, brûlent les tiki et construisent des oratoires en quantité. N'oublions pas que depuis quelque temps déjà, la direction de la mission est installée à Tahuata. Le 2 février à Hivaoa, le capitaine Collins du Midas, venu collecter du bois de santal et s'approvisionner, dresse la liste des échanges qui eurent lieu cette journée-là. C'est juste une liste pour information. 13 baleinières chargées de bois pour un fusil, 3 chargements de baleinières pour une hache, 4 baleinières de santal pour 32 mètres de tissu, 1 baleinière de bois pour 4 livres de tabac, 12 baleinières de patates douces pour un fusil. Il en faut des patates douces pour remplir 12 baleinières. Et tout ça pour un fusil. 30 troncs de santal pour un baril et demi de poudre. 100 régimes de bananes pour des balles et des pipes. 2500 noix de coco pour des balles et 2,5 kg de tabac. 20 citrouilles pour des balles. C'est Greg Denning qui nous donne tous ces détails à la page 269 de son livre « Réflexions sur une terre muette ». Le 22 février, le père d'Ordillon entame l'évangélisation de Hanami'ai. Le 4 avril, Mgr Baudichon célèbre la première messe dans la nouvelle chapelle de Waitahu. Et le 12 avril, dimanche de Pâques, il inaugure solennellement le catéchuménat. Le canon du navire stationnaire tonne au moment de l'élévation et de la bénédiction finale. L'église et la marine sont en parfait accord. Du 24 mai au 2 juillet, c'est le long séjour d'un navire qui s'appelle Arche d'Alliance. À son bord, le capitaine Marceau mène une campagne missionnaire et commerciale pour le compte de la Société française d'Océanie. Il vient repérer le terrain pour voir si on peut installer une société de commerce aux Marquises. Vers le milieu de l'année, on compte 300 catéchumènes sur l'île de Tahuata. Le 31 mai, dimanche de Pentecôte, les néophytes sont baptisés et confirmés dans la foulée. Le 7 juin, Mgr Baudichon inaugure la nouvelle chapelle de Hanami'ai. À la page 230 de son livre, déjà souvent cité, Greg Denning nous donne une appréciation de ce qui se passe vraiment. Voilà ce qu'il dit. Les rites de rejet devenaient plus élaborés et plus précis à mesure que les habitants des différentes vallées de Tahuata demandaient à devenir catéchumènes, puis à recevoir le baptême. De petits oratoires se dressaient sur les anciens paipaitapu. Les hommes se coupaient les cheveux, les vieillards coupaient leurs barbes et tous les laissaient à la porte des chapelles. Les nattes et les pagnes des femmes, autrefois tabous pour les hommes, étaient accrochés au linteau des portes des chapelles et les nouveaux chrétiens passaient dessous pour montrer qu'elles n'étaient plus tapu. On organisait des processions jusqu'au me'ai. Les hommes et les femmes y palpaient le crâne de leurs ancêtres. tout en proclamant au fur et à mesure le nom de chacun d'entre eux. Ils rassemblaient leurs tiquis de bois et y mettaient le feu. Avec les tisons, ils allumaient leurs pipes et les feux sur lesquels ils faisaient cuire les fruits de l'arbre à pain, les meilles, qu'ils consommaient tous ensemble, hommes et femmes mêlés, alors qu'autrefois, il était interdit aux femmes de manger avec les hommes. « Nous avons mangé nos dieux, » disait-il. Le 11 juin, à Uopo, débute un conflit entre les Naiki de Hakahau et les Atipapa de Hakamoui, qui durera jusqu'au 14 août, date à laquelle il y sera mis fin par l'intervention personnelle de Mgr Bodichon et du commandant particulier Brunet, arrivé de Taiohae.
Le 24 juin, lors de ce conflit, le père d'Ordillon est à Hakahau, à Uopo, où il a fondé une petite école fréquentée par quelques enfants. Il écrit « Aujourd'hui, mercredi 24 juin, à 9h du soir, pendant que je trace ces lignes, on m'avertit que les ennemis doivent venir pendant la nuit incendier notre maison. Je viens de faire conduire les enfants de l'école sur la montagne où se trouvent déjà les femmes et les enfants de la baie de Hakahau. »
Le 1er novembre à Waitahu, c'est la première communion générale de 14 Enata. Le 22 novembre à Hakahau, baptême et confirmation du Hakaiki Kiviuta et de 14 autres, administrés par Mgr Bodichon. Le 16 décembre à Uopo, on compte 45 chrétiens et 104 catéchumènes. En décembre à Tahiti, c'est la fin de la guerre franco-tahitienne au bénéfice des Français. Dans leur chronique, cependant, les missionnaires notent aussi de nombreux abandons. En effet, on peut se poser la question de savoir ce que les Enana et les Enata comprenaient vraiment de ces nouvelles pratiques.
Comme l'indique la date de 1846 gravée au-dessus de son entrée, c'est aussi cette année-là que fut terminé le bâtiment des officiers qui sert de nos jours de siège à la subdivision administrative des îles Marquises. Tout au long des années 50-60, ce bâtiment servit aussi d'école. Comme les documents officiels l'indiquent, en particulier les cartes tirées à la fin de 1844, le bâtiment qui sert actuellement de prison et qui se nommait Magasin Général de la Marine a été terminé avant cette date-là, avant 1844, en même temps que le bâtiment qui sert désormais de résidence à l'administrateur d'État des îles Marquises. Le Magasin Général de la Marine fut aussi cathédrale des îles Marquises entre 1859 et 1866, à l'époque où il avait été confié aux missionnaires. Ces trois bâtiments sont les trois plus anciens bâtiments administratifs de Polynésie française qui sont toujours en usage administratif.
Il est amusant de noter que lorsqu'on se trouve à mi-chemin de la résidence de l'administrateur et de la subdivision des îles Marquises, on fait face au four à briques qui a servi à l'élaboration des briques qui ont elles-mêmes été utilisées pour la construction de ces deux bâtiments. Et en tournant la tête à droite ou à gauche, on voit les embrasures de fenêtres en briques et ces briques proviennent toutes de ce four.
À propos des bâtiments, il est amusant d'apprendre qu'une fois la décision prise par le gouvernement de la France de s'installer aux îles Marquises dès 1838, c'est le capitaine de vaisseau Armand-Joseph Bruat qui avait été pressenti comme futur gouverneur. Soucieux de son confort personnel, il avait alors passé à Lyon, en France, la commande d'une demeure coloniale à étages préfabriquée en bois, dont la résidence actuelle de l'administrateur est une réplique en pierre. En fait, l'amiral Bruat n'ayant jamais été en poste aux Marquises, c'est à Tahiti que cette grande demeure a été érigée, mais je ne sais pas si elle est encore debout. 1847 maintenant. En début d'année, c'est le retour de la reine Pomaré qui signe une convention réduisant considérablement ses pouvoirs au profit de ceux du commissaire. La France s'installe définitivement à Tahiti. Le 18 février à Kahetao, à Uopo, bénédiction de la chapelle de Notre-Dame de la Paix par le père d'Ordillon. En mars à Tahuata, c'est la mort de la mère
de Mahe'ono.
Et ce dernier se met en quête de victimes humaines. La mission de Hanatetena est pillée. Le 17 mars à Nukuhiva, à la demande des Taioa, une expédition militaire est menée contre Tahutete, chef des Hake, qui a insulté le pavillon français. Dans la nuit du 26 au 27 avril, à Hatihe ou à Nukuhiva, alors qu'ils étaient chargés de porter aux chefs des tribus du Nord-Est une invitation à la fête du roi et au banquet du 1er mai, les officiers meuniers et l'évêque tombent dans une embuscade et déjouent une tentative d'assassinat. Du 2 au 6 mai, une expédition punitive est lancée contre les coupables avec l'aide d'autres tribus.
Dans son journal, un Vosgien tabou à Nukuhiva, le jeune marin français George Winter nous raconte en détail ces deux épisodes guerriers auxquels il a participé activement. Concernant la bataille de la grotte et Anaotako de Hakaui, il précise que le chef Tahutete se nommait aussi Motanehitu. Concernant l'épisode des Puhioho de Hatiheu, il explique que, après leur défaite, la vallée de Hatiheu et peut-être celle de Anaho furent données en cadeau à Temuana.
De mars au 22 juin, passé de 200 hommes à quelques dizaines, l'évacuation de la garnison de Vaitahu est définitivement décidée par le gouverneur Lavo, qui vient de remplacer l'amiral Brua. La garde des bâtiments et du matériel est confiée aux missionnaires. C'est la première étape de l'abandon militaire des Marquises. En 1849, ce sera le tour de Taiohae. Le 4 juin à Vaitahu, sur la corvette le Gassendi, arrivée de trois sœurs de Saint-Joseph de Cluny dans l'intention de créer une école, mais le projet est abandonné, après le départ de la garnison, les sœurs craignant pour leur sécurité. Après le départ des Français de Tahuata,
les Enata tentent de tuer Maheono, qui s'enfuit à Nukuhiva avec son fils adoptif, nommé Teapu par certains et Teapetu par d'autres.
Plus tard, il reviendra à Hivaoa, où il sera un temps chef des Ha'amau de la vallée de Hututehe. Les différentes vallées se font la guerre, les tribus de Hiva'o attaquent Tahuata, les clans s'entretuent avec une haine inconnue jusqu'alors qui désespère les missionnaires décontenancés. À Tahuata, Ta'aka, dont nous avons déjà parlé, chef de Hanatetena, et Ha'aoipu, entrent en guerre contre les Atiku'a de Hanateio, commandés par Panao. Vainqueur, Ta'aka fait incendier toutes les cases des vallées ennemies, sauf Hapatoni, où il s'installe. Panao s'enfuit à Hiva'o. Après l'abandon de Vaitahu en juin 1847, les Enata retournent à leurs anciennes pratiques. Et voici ce qu'en pense Greg Denning. À la violence née des haines et des divisions ancestrales de vallée à vallée s'ajoute maintenant la haine nouvelle, celle-là, qu'ils éprouvent pour eux-mêmes. Cette haine devient orgiaque et gratuite, irraisonnée et désespérée. Les missionnaires ne comprennent plus. L'âme des Enata est vide et leur christianisme n'est qu'une coquille creuse où la croyance n'a pas de sens. La prière est sans espérance et la foi de nulle valeur. C'est aussi l'indulgence et la décadence des administrateurs coloniaux qui causent le retour aux vieilles coutumes. La grâce divine a besoin du support du bras séculier sans lequel, si l'on veut civiliser et christianiser les Enana et les Enata, on doit détruire les coutumes et les institutions clés dont les missionnaires avaient dressé la liste. Fin de citation. Ça veut dire que, sans l'aide de l'État, l'Église ne peut rien faire. Et c'est ce qui se passera
jusqu'à la promulgation des décrets répressifs de mars 1863 et l'intervention militaire de juin 1880.
Et la pacification de Hiva'oa qui mettra un terme à toutes les rébellions pour ensuite instaurer l'ordre français. En juillet, le père d'Ordillon quitte Uopo'o pour Nuku'hiva avec le père Fournon pour essayer de créer un contact avec la tribu Matahu'a des Hapa'a. Mais ils ne sont pas écoutés. Ce même mois, échouage et pillage du baleinier américain Henry à Hanamenu, Hiva'oa. Le capitaine rejoint Taiohae en pirogue le 14. En 1848, à Paris, le 25 février, c'est la proclamation de la République. La politique de la France dans le Pacifique va-t-elle changer? Nous verrons bien en temps utile. Le 9 mai, suite à une division du vicariat de l'Océanie orientale, les îles Marquises forment un vicariat apostolique séparé et Mgr Baudichon en est nommé vicaire. Il en est de même avec la création du vicariat apostolique de Tahiti qui sera dirigé par Mgr Tepano Josen. Le 7 septembre, Max Radiguet raconte comment Tara, une jeune marquisienne de 16 ans, qui vivait depuis 2 ans avec un officier français qu'on appelle Teapo, est décédée la veille d'une tuberculose aiguë et a été enterré ce jour-là au cimetière français de Hakapehi avec l'autorisation du gouverneur. Elle avait été remarquée par Radiguet en 1843 alors qu'elle dansait sur un socle de pierre d'un tohua de Havao lors d'une fête Koika. Elle avait perdu l'équilibre, était tombée en se blessant et pour la consoler, les Français lui avaient donné un chapelet en perles de verre bleu qui l'avait consolée. 3 ans plus tard, près du fort Colette, un officier remarqua le chapelet qu'elle portait au cou. Tara lui expliqua son origine et aussi que ses parents étaient morts, victimes des Taipi. Teapo lui proposa de rester avec lui. Et elle accepta, après avoir consulté le reste de sa famille, à Hiko'e. Puis elle tomba malade et ne put jamais guérir, en dépit des soins prodigués par les Taua et aussi le médecin militaire du service du navire stationnaire.
Elle avait demandé à être enterrée au cimetière français de Hakapehi, à côté d'un petit garçon marquisien
qui avait été tué par accident peu avant, lors d'une manipulation de fusil, alors qu'il jouait dans le camp. Comme elle était restée avec un Français et que ce n'était pas du goût de tous les marquisiens, elle voulait que son corps ne puisse pas être profané après le départ des Français qu'elle pressentait. Étant enterrée, elle savait qu'aucun marquisien ne tenterait de toucher à sa tombe. Comme elle était bien connue du commandant, celui-ci autorisa qu'elle soit enterrée au cimetière de
Hakapehi.
Je rappelle ici qu'une des tombes les plus anciennes de ce cimetière date de 1845 et que la croix en fer forgé qui la surmonte est ornée d'une plaque portant l'inscription « La 6e compagnie des ouvriers de marine à leurs camarades ». La croix est encore en parfait état.
Et grâce au numéro de sa compagnie et grâce aussi aux archives de l'évêché de Taiohae, nous savons que ce jeune homme se nommait Frédéric Athanase Martin, qu'il était né le 4 mai 1818 dans le département de la Manche et qu'il avait été inhumé le 12 avril 1845.
Cette année-là, Radiguet estime à 5000 habitants la population de Nuku'hiva, dont 400 ou 500 en état de combattre. Il précise cependant que la baie de Taiohae, plus particulièrement fréquentée par les étrangers, a perdu les 4/5 de ses habitants. Il faut donc convenir que cette effrayante dépopulation est due au contact plus ou moins fréquent des navigateurs avec les indigènes. Et il ajoute « Comme la dégénérescence commence par les femmes, à Nuku'hiva, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes et il y a très peu d'enfants. Le 15 septembre, lassé des guerres sur Tahuata et jugeant la mission des marquis sans avenir, Monseigneur Bodichon quitte Nukuhiva sur le Cincinnati, capitaine Williams, pour rentrer en France. Il est accompagné des deux sœurs de Saint-Joseph de Cluny, venues l'année précédente faire l'école à Tahuata. Le père Ildefonse d'Ordillon devient provicaire et vice-provincial. Monseigneur Bodichon ne rentrera jamais aux marquises et mourut à Tours, en France, le 11 juin 1882. La corvette Galatée est stationnée à Nukuhiva avec 250 hommes et le vapeur Gassendi fait le tour de l'île pour montrer la présence française dans toutes les vallées. Petit à petit, le personnel militaire de Taiohae est se réduit en vue du départ définitif à Tahiti l'année suivante. Chers amis, en cette fin d'année 1848, Monseigneur Bodichon quitte les marquises découragées et les effectifs de la marine sont en forte réduction en prévision d'un déménagement définitif. Ne manquez pas la prochaine émission qui nous fera traverser 1849, à la fin de laquelle il ne restera plus aucun militaire ou marin français sur la terre des hommes jusqu'en 1852. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et encore merci à Rataro pour sa chanson énergique Hawa Niki Iter, une chanson qui évoque l'influence de la pâleur lunaire sur les humains. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.